Tout un monde.
Marie-Hélène Freixé.
Le magazine des cultures et des identités en mouvement. Bonsoir à tous. Ce soir, dans Tout un monde, un regard sur nos voisins helvètes, si loin et si proches. Le regard de Metin Arditi, qui vient de publier un dictionnaire amoureux de la Suisse. Ah, la condescendance du citadin qui se croit supérieur parce qu'il vient de la ville. Le son du cor des Alpes est rond, puissant et pur, une merveille. Voilà ce qu'on peut lire à la rubrique « Cor des Alpes », page 143 du dictionnaire amoureux de la Suisse, dont vous êtes l'auteur, Metin Arditi. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, c'est un hommage à votre patrie d'adoption. Au terme d'un demi-siècle et un peu plus, je crois, passé sur les bords du Léman, plus particulièrement à Genève, ville qui, a priori, ne suscite pas les pâmoisons amoureuses, mais dont vous nous dévoilez les charmes cachés, qui ont d'ailleurs gagné vos faveurs définitivement au terme d'une vie professionnelle bien remplie, puisque vous êtes un homme d'affaires avisé.
J'étais.
Vous étiez.
Oui, je ne le suis plus.
Oui, puisque vous avez eu une vocation tardive d'écrivain.
Voilà.
Je dis tardive parce que vous avez pris la plume à la fin des années 90.
Voilà.
Donc vous aviez déjà
45 ans.
45 ans, voilà. Et vous avez commencé d'ailleurs un petit peu timidement par l'essai. Vous en avez consacré un à Machiavel et un autre à Nietzsche. Et puis vous êtes jeté à l'eau. Et vous avez produit plus d'une dizaine de romans, qui d'ailleurs ont rencontré un très large public. Et le cadre de ces romans est souvent donc cette Suisse qui vous est chère et qui est l'unique objet donc de ce dernier opus, Dictionnaire amoureux de la Suisse.
Oui.
C'est une dette d'amour ?
Ah bah forcément, il y a le mot amoureux sur la couverture, donc on parle d'amour. Bien entendu.
Amour un peu vache, c'est le cas de le dire, sans jeu de mots.
Il y a la déception de temps en temps, il y a le chagrin d'amour, il y a l'amour vache, il y a tout ça. Tout ce sans quoi un amour n'est pas un vrai amour.
Alors, sentiment d'une dette, hein, vous le dites
oui.
Très clairement. Vous êtes arrivé donc en Suisse dans des conditions donc pas faciles, avec vos parents qui
Alors
venaient
non,
de...
Non, je non ne suis pas arrivé avec mes parents. Je suis arrivé à l'âge de 7 ans dans des conditions faciles sur le plan matériel, mais difficiles sur le plan émotionnel. Parce que mes parents étaient en Turquie, on m'a placé dans un internat où je suis resté durant 11 années. Et pendant ces 11 années, je passais les vacances de Pâques, de Noël et un des deux mois d'été en internat, j'étais celui qui restait le plus de toute l'école. La Turquie était loin, on ne téléphonait jamais et je voyais très très peu mon père et ma mère. Un mois sur les deux mois d'été, elle venait en Europe et nous allions souvent dans une ville de cure parce qu'elle souffrait d'asthme et moi aussi, ou sinon au bord de la mer. Pendant 4 semaines, nous étions ensemble.
Donc c'était austère, cette vie.
Alors la vie était compliquée parce que, pour le surplus, c'était une école privée, donc il y avait des garçons qui étaient là-bas parce qu'ils avaient raté une classe, donc il y en avait qui avaient une année de retard. Moi, j'avais beaucoup de facilité pour les études, j'avais 2 ans d'avance. Et j'étais premier de classe. Alors, quand vous êtes dans cette situation, c'est un peu compliqué. Hein, la socialisation pose problème. L'éloignement des parents s'ajoutant à cela, j'ai bien sûr, avec les années, développé un goût de la solitude.
Et vous aviez du vague à l'âme, puisqu'il y a une expression dont vous parlez dans ce dictionnaire amoureux de la Suisse, qu'employaient vos camarades de collège et de pension. Il est au bord du lac.
Ah oui, il est au bord du lac.
Ça veut dire il a un coup de blues et
non,
il ne faut pas le déranger.
Non, ça veut dire qu'il est physiquement au bord du lac. C'est-à-dire que l'école où j'étais était au bord du lac, il y avait juste un petit chemin public entre la limite de propriété et le lac. Et en principe, on n'avait pas le droit de sortir des limites de l'école. Mais lorsque quelqu'un avait un coup de blues, il allait se cacher, en fait, et on lui fichait la paix. Et même les professeurs ne venaient pas nous chercher quand on disait de quelqu'un « il est au bord du lac », ça voulait dire « il est dans le chagrin, il faut lui ficher la paix ».
Alors c'était une époque où la Suisse était peut-être plus accueillante qu'aujourd'hui, puisqu'on apprend dans votre ouvrage que ce fameux référendum qui nous a tous scandalisés, et d'ailleurs que vous dénoncez dans des termes très forts, le référendum du 9 février 2014, qui était... c'était le terme choisi pour le référendum, contre l'immigration de masse. Bien, ce référendum, en fait, a été plus ou moins défait par le Parlement, mais n'empêche que la Suisse n'est pas si accueillante qu'on le dit.
Alors, la Suisse est un pays paradoxal. C'est un pays extraordinairement accueillant. 25% de sa population est étrangère. Voilà, il y a à Genève 50% d'étrangers. Enfin, c'est extraordinaire. Et le pays vit en paix. Non, le pays est extraordinairement accueillant et il a su, au fil des ans et des siècles, intégrer toutes sortes de populations. Ce qui se passe en Suisse, c'est aussi, si j'ose le dire, ce qui se passe en France, c'est que vous avez des mouvements politiques qu'on ne contrôle pas. Et ces mouvements dépendent très souvent du talent d'une personne. Pour prendre un exemple français, je ne suis pas parmi ceux qui sont séduits par M. Le Pen ou sa fille, mais il faut leur reconnaître leur talent et leur force de conviction. En Suisse, il y a un homme politique qui s'appelle Christophe Blocher, et qui est un homme absolument remarquable, on peut ne pas être d'accord avec tout ce qu'il dit. Moi, je suis d'accord avec un certain nombre de choses qu'il dit, puisque je fais partie de ces naturalisés qui ont tendance à être, sur certains sujets nationaux, plutôt de droite, alors que pour d'autres, je serais de l'autre côté, certainement. Mais voilà, c'est un homme extraordinairement capable, il a pris un parti, il a trouvé le parti UDC, l'Union démocratique du centre. Il en a fait le premier parti de Suisse. Il se trouve qu'au moment de cette votation, qui est d'une stupidité rare, ce résultat, il est crétin. Mais au moment de cette votation, nous avions un ministre des Affaires étrangères qui était en train de festoyer là où il y avait les Jeux Olympiques, à Sochi. Les autres partis n'ont pas pris la mesure des risques. Ils sont restés les bras croisés. Et résultat des courses, ça a passé d'un cheveu. Mais personne ne s'y attendait.
Il y a quand même au quotidien, Métine Arditi, quand même une xénophobie de certains Suisses, puisque les Français qui sont frontaliers, et on en connaît quelques-uns, connaissent cette expression que d'ailleurs vous citez dans votre livre à propos de la création d'une ligne d'autocar. On parle de la racaille d'Annemasse.
Oui.
C'est pas rien quand même.
Alors ça, c'était vraiment scandaleux. Mais je dois dire, objectivement, ce n'est pas absolument pas représentatif de l'état d'esprit à Genève. Non. Les Genevois ont une grande habitude d'accueillir des étrangers. Je le dis très sincèrement.
Bon, c'est une erreur de parcours, mais
c'est
une expression qui revient.
C'est un geste politique d'un parti d'extrême droite qui trouve effectivement toujours des gens qui sont prêts à croire au mirage. Et qui pensent qu'en chassant ceux grâce à qui fonctionne l'économie, ils s'en porteront mieux.
Voilà une romance qui vient de loin, Metin Arditi, qui vient de votre premier pays d'origine, la Turquie, hein, et qui vient vers cette Genève dont on va parler maintenant, où vous avez pris racine. Donc vous êtes issu d'une famille juive turque. Vous nous avez dit tout à l'heure, donc vous êtes d'abord parti en quelque sorte en émissaire dans cette pension, et puis vous avez pris racine à Genève. Et une grande partie de votre dictionnaire amoureux de la Suisse consacre son énergie, à son espace, à louer cette ville, qui est une ville qui, pour beaucoup d'entre nous, n'est pas une ville extrêmement séduisante. Alors faites-nous aimer Genève, dites-nous pourquoi vous aimez tant cette ville, à la fois austère, un peu abstraite, avec toutes ces institutions internationales et tous ces fonctionnaires un peu qui vivent hors sol. D'où vient cet amour ?
Écoutez, d'abord, il y a à Genève une qualité de vie exceptionnelle, une très belle géographie, puisque Genève embrasse le lac de part et d'autre, une situation proche des Alpes qui permet voilà, une infinité de courses en montagne qui donne accès à toutes les stations de ski que l'on veut. La ville est petite et donc les distances sont courtes, on fait beaucoup de choses à pied, donc la vie y est très agréable. Ensuite, Genève a une vie culturelle exceptionnelle.
Oui, vous parlez de l'esprit de Genève.
Alors, vous voyez, au fil des ans, j'ai eu l'occasion d'entendre beaucoup d'amis étrangers faire leurs commentaires sur Genève. Et ce qui est frappant, c'est que ces commentaires partent toujours d'une référence qui est leur référence. Et ça, c'est une erreur. C'est-à-dire, ils me disent, mais tu sais, ici, les gens sont froids, ils ne nous aiment pas. Alors, c'est faux de voir les choses comme ça. Il faut voir les gens pour ce qu'ils sont et pour ce qu'ils sont entre eux. Genève est une ville qui est profondément calviniste, qui a gardé de Calvin une marque très forte. Il a imprimé, comme on dit aujourd'hui, n'est-ce pas ? Il a marqué cette ville. Et il y a une réserve. Cette réserve n'est pas exclusivement adressée aux étrangers. C'est comme ça que même les Genevois sont entre eux, mais les Genevois sont des êtres humains comme les autres. Ils ont leurs passions, ils ont leurs douleurs, ils ont leurs failles. Simplement, le mode d'expression est spécifique à Genève. Il est du reste différent dans le canton de Vaud et encore différent dans le canton du Valais. Un peu plus loin.
Oui, qui est quand même beaucoup plus paysan, montagnard, qui
plus rude,
bon vivant.
Voilà, absolument. Plus rude, c'est autre chose. Le vaudois, c'est autre chose. Le vaudois, vous allez chez un vaudois, la première des choses qu'il va faire, il va ouvrir une bouteille de vin.
Il y a un éloge appuyé des vins suisses. Oui. Et je le trouve très beau, cet éloge, parce que il y a des noms de cépages formidables que je pense les Français ne connaissent pas. La petite Arvine, enfin, je ne les ai pas tous mémorisés.
Bon, j'ai essayé de ne pas aller trop loin pour ne pas chaque les lecteurs français.
Non, mais il y a un côté très, très bon vivant que vous...
Il y a des vins, évidemment, surtout les blancs. Il y a des vins exceptionnels, des rouges aussi. Il y a un rouge des Allées, par exemple, qui est absolument magnifique. C'est un Chasselas. Oui, il y a de très bons vins. En Suisse, il y a de très bons fromages. On n'est pas très loin de la France, vous savez. On est un pays voisin, donc.
D'ailleurs, vous faites la part belle, soyons honnêtes, dans ce dictionnaire amoureux de la Suisse, à toute la partie suisse romande. Alors, vous parlez de Zurich, vous parlez de Bâle, mais c'est quand même périphérique.
Alors, écoutez, pour vous. Oui et non. Je fais la part belle parce que c'est évidemment la région que je connais le mieux. C'est celle qui m'est le plus familière. C'est là où je peux poser un regard amoureux, disons, plus fondé. En revanche, ce que je dois dire, et je pense que vous me donnerez raison sur ce point, c'est que mes grands coups de cœur, mes grandes surprises sont venus de la Suisse allemande.
Par exemple,
Par exemple, Bâle. Bâle, où je, c'est
éloge
certainement...
appuyé de Bâle.
Ah oui, et je crois que je consacre à Bâle l'entrée la plus longue.
Ce qui surprend un Français qui ne voit à Bâle qu'à peu près la foire.
Alors écoutez, c'est ça l'écriture d'un dictionnaire, c'est ça l'écriture tout court. C'est que moi j'étais à Bâle 100 fois avant d'écrire ce dictionnaire. Et puis j'ai dit non, il faut que j'y aille pour pouvoir quand même poser un regard plus serein, aussi plus lent, n'est-ce pas? Et là, c'était vraiment un grand choc. Et l'histoire des Picasso, n'est-ce pas? Lorsque le peuple vote pour acheter des toiles de Picasso, alors que les finances de la ville ne sont pas en bon état, ça, je trouve que c'est fantastique. Ça, c'est vraiment c'est chapeau.
Alors le terme justement qui définirait votre regard sur la Suisse et notamment sur Genève, où je voudrais qu'on revienne un moment, c'est le paradoxe.
Oui.
Et ce paradoxe, c'est une philosophe d'ailleurs qui vous a incité à le cultiver, une de vos amies,
Jeanne Hersch. Oui, mon amie, c'est vraiment, pour moi, c'était la personne que je vénérais.
Et elle vous a dit que, gros, quand on considère une identité ou une population et qu'on voit émerger du paradoxe, c'est qu'on est sur la bonne voie.
Elle me disait, quand vous vous occupez de conditions humaines et que vous butez sur un paradoxe, c'est que vous êtes sur la bonne voie.
Alors pour Genève, on est vraiment dans le paradoxe. C'est-à-dire qu'on a à la fois. Oui, mais encore plus à Genève, parce qu'on a à la fois ce côté très austère, ce côté quand même très, très intéressé. C'est quand même le pays de l'argent, de la banque. Et vous avez des mots d'ailleurs assez durs sur certaines pratiques bancaires, bien que ce soit forcément un milieu que vous connaissez bien, parce que vous avez été longtemps homme d'affaires.
Ce ne sont pas les pratiques de la banque privée. J'ai des mots durs pour les pratiques de la banque commerciale, qui est la grande banque suisse-allemande, plutôt, n'est-ce pas? Les grands groupes, et également pour la FINMA, qui est l'organe de contrôle. Là, effectivement, j'ai quelques lignes qui sont assez dures. Mais je crois que vraiment le paradoxe, vous voyez, la Suisse est un pays qui a l'air très simple. On le voit de loin, on le regarde de loin, on se dit voilà, c'est un pays paysan, plutôt élémentaire. En réalité, ce pays fait cohabiter dans l'harmonie et depuis des siècles quatre langues, quatre cultures, des gens qui viennent de partout, des étrangers de gauche et de droite. Et finalement, par un système d'équilibre où tout un chacun est de temps en temps majoritaire, de temps en temps minoritaire, la Suisse a mis au point un système de fonctionnement d'une rare subtilité. Et le paradoxe, c'est que ce pays extraordinairement subtil est suffisamment astucieux pour ne pas mettre sa subtilité en avant. Et il est suffisamment astucieux pour viser l'essentiel, qui est la cohésion nationale
la paix. Et donc la recherche du consensus.
Et ça, elle passe par là. Cette recherche qui n'est pas la recherche de la gloriole. Jamais vous n'entendrez un homme politique suisse dire « Ah, la place de la Suisse dans le concert des nations ». Ça, c'est une expression que vous écoutez souvent sur territoire hexagonal. Eh bien, en Suisse, jamais. Pas une seule fois. Non, ce qu'on vise, c'est la cohésion nationale, une certaine tranquillité, une bonne vie, et la vie, elle est quand même douce. Ça passe par ce mot que vous avez prononcé et sur lequel je m'arrête aussi dans le dictionnaire, qui est le mot de consensus. Et le mot de consensus, quand on passe vite dessus, on se dit « oui, mais c'est comme la démocratie, alors on se met autour de la table ». Non, c'est faux. Ça vient en amont de la démocratie. Le consensus, c'est lorsque chacun a le sentiment non seulement d'être entendu, mais d'être écouté, d'être respecté, si bien que lorsqu'il se retrouve en situation minoritaire, il est beaucoup plus apte à jouer le jeu, à aller, à faire équipe que si on l'avait tout simplement d'un revers de la main renvoyé à ses pénates.
France Culture, tout un monde, Marie-Hélène Freissé.
Dans votre dictionnaire amoureux de la Suisse, Metin Arditi, vous faites une place de choix à Ernest Anzermet, dont on entend en ce moment la direction à la tête de l'orchestre de la Suisse romande. Oui. Alors, vos stars, en fait, ce sont les musiciens et les écrivains dans ce dictionnaire amoureux. Il y a quelques peintres aussi, mais ce sont vos préférés.
Il y a pas mal de peintres, mais écoutez, j'ai passé 18 ans de ma vie à l'orchestre de la Suisse romande, 5 années comme vice-président et 13 années comme président.
Vous n'êtes pas instrumentiste,
non, pas du tout.
Mais amoureux fou de la musique.
Amoureux de la musique et aussi de l'institution et aussi, surtout, très accroché. On me demandait toujours, mais la musique, c'est ta passion? Non, ma passion, c'est ma ville. Ce qui est important, c'est qu'il y ait de la musique classique dans une ville. Ça, c'est très important. Et la musique classique n'est pas portée par les goûts, disons, commerciaux aujourd'hui. Donc... Et c'était 18 années extrêmement intenses. C'était bien entendu du bénévolat, mais j'y passais des dizaines d'heures par semaine. Et donc j'ai fait, pas toutes, mais quasiment toutes les tournées, pas tous les concerts, mais quasiment tous. Donc j'ai vécu une vie très intense au sein de l'Orchestre de la Suisse romande. Et puis l'écriture, c'est ma vie. Et donc forcément, mon cœur va tantôt à l'un, tantôt à l'autre.
Alors, parmi les écrivains donc, que vous choyez, qui ont des entrées dans votre dictionnaire amoureux de la Suisse, il y en a auxquels on s'attend. On retrouve Jacques Chesset, par exemple,
oui.
Merveilleux écrivain.
Grand écrivain.
Malheureusement, aujourd'hui, peut-être un peu oublié. Il nous a quittés il y a combien? Une dizaine d'années, à peu près?
2009.
Oui, c'est ça. Il y a Nicolas Bouvier, ça, dont la gloire continue.
Aussi, oui.
Et puis alors, il y a ceux qu'il faut absolument rencontrer.
Oui.
Et Nicolas Bouvier y tenait d'ailleurs lui aussi. Parlons un peu de Gustave Roux.
Que je suis content que vous le citiez. Parce que pour moi, il y a eu chez les écrivains francophones romans deux grandes découvertes. Gustave Roux et Corinne Aby. Extraordinaires l'un et l'autre. D'abord de talent et puis d'honnêteté artistique. L'un comme l'autre. Et Gustave Roux, pour moi, c'est un immense écrivain. Pas suffisamment connu, bien sûr. Immense par son talent, immense aussi par son parcours de vie. Quelle noblesse cet homme qui habite à la campagne et qui parle et dévoile ainsi avec quelle distinction son homosexualité. Ces textes sont bouleversants, vraiment bouleversants. Corinne Aby...
Elle se cache un peu derrière son mari, Maurice Chappat.
Mais c'est ça aussi qui est tellement touchant. Elle se cache derrière Maurice Chappat et lui tape ses textes en priorité. Elle fait la popote en priorité. Alors que, à mes yeux, son talent est de loin supérieur à celui de Maurice Chappat. Mais Maurice Chappat était un bagarreur. C'était un type formidable. Elle, c'est une personne délicate. Elle était d'une grande beauté. Et son écriture est à son image.
Et il y a place alors dans ce dictionnaire amoureux de la Suisse pour des personnages qui cohabitent de manière très insolite. Revenons par exemple à Genève. Alors Genève, ville de Calvin, c'est aussi la ville de Griselidis Réal.
Oui.
Et personnage absolument accepté, faisant partie du paysage de la ville, sur la tombe de laquelle on peut lire « écrivain, virgule, peintre, virgule, prostituée, 1929-2005 ».
Oui, c'était toute une polémique à l'époque. Fallait-il l'enterrer au cimetière des rois, là où on enterre les grands personnages de Genève? Et finalement, à l'époque, c'était Patrice Muni, le responsable au sein du conseil administratif du cimetière des Rois et le responsable de la culture. Et donc, il s'est battu et on l'a mise là. C'était une femme formidable qui s'est beaucoup battue pour la cause des prostituées et qui avait alors un talent fou à la fois dans l'écriture. Et j'ai repris... Je n'ai pas pu résister à tout reprendre d'une lettre qu'elle a écrite à Maurice Chappat, qui est fantastique, tout simplement épatante. Ce que je n'ai pas repris, hélas, ce sont ses peintures. Elle avait un talent fou. Et Ah, c'était un sacré personnage. Et puis, elle n'avait pas sa langue dans sa poche.
Alors, il y a les venues d'ailleurs aussi.
Oui, elle était
quelques
française.
Grands écrivains.
Oui, oui.
Puisqu'on en était préalablement à la rubrique des écrivains. Alors, il y a bien sûr l'immense Elias Canetti. Et puis, alors, il y a ceux quand même qui sont quelque part un peu des réfugiés fiscaux. Mais ça n'enlève rien à leur talent. Je pense à Frédéric Dard. Je pense à Simenon.
Oui.
Il n'est pas suisse au départ, Simon.
Non, ouais. non.
Et alors, ces réfugiés fiscaux, vous les avez quand même dans le nez, sauf quand ce sont de grands artistes. Parce que vous dites que finalement, la Suisse y perd, c'est-à-dire que ce sont des gens qui viennent, là vous avez des mots assez durs quand même, ce sont des gens qui viennent, qui payent des impôts sur leur train de vie, alors que les impôts des Suisses eux-mêmes sont des impôts lourds.
Oui.
Les étrangers, donc, sont favorisés des deux côtés, puisqu'ils ne payent pas les impôts chez eux, et ils payent des impôts très modiques en Suisse.
Oui. En fait, bon, ces deux personnes, c'est des grands artistes, ils sont venus et ils sont restés. Dard aimait profondément la Suisse. Moi, je croise des réfugiés fiscaux qui viennent en Suisse et qui regardent la Suisse un peu en se pinçant le nez et en disant, mais Genève, c'est pas Paris, etc. Mais surtout, je crois que c'est pour la Suisse un très mauvais calcul, cette façon d'abord vis-à-vis de pays amis d'aller en quelque sorte à la pêche aux contribuables, parce qu'un contribuable français qui vient en Suisse, c'est un contribuable français en moins, en France. Et la France a besoin de ses contribuables. Voilà.
Merci.
Ça, c'est
pour
une
nous.
Chose. Non, mais et donc là-dessus, j'ai pris des positions très nettes en public. Enfin, je veux dire, j'ai écrit.
Oui,
là-dessus.
Ça vous met en colère même carrément dans ce livre.
Oui, parce que ça ne correspond pas aux valeurs de la Suisse. Gagner de l'argent comme ça, d'abord, c'est inéquitable par rapport aux Suisses qui sont eux à la retraite, qui ont moins de revenus et qui sont quand même lourdement imposés. Ça ne correspond pas aux valeurs traditionnelles de la Suisse. Et moi, je pars de l'idée, certainement naïve et certainement juste, que ce qui fait la force d'un pays, c'est sa fibre morale. Voilà. Ce n'est pas l'argent qu'il y a dans ses caisses. Cet argent peut s'évaporer très vite, on l'a vu au cours de l'histoire. C'est sa fibre morale, c'est sa capacité et son goût de se battre pour atteindre ses objectifs. Et la Suisse est un pays qui s'est toujours battu contre la nature. La Suisse est un pays de montagne, un pays difficile, exigeant. Traditionnellement, les Suisses étaient des paysans de montagne. Ils se sont forgés leur caractère. Tout ce qui touche aux forfaits fiscaux va à l'encontre de ces valeurs.
Merci Metin Arditi, on aura compris donc que c'est un dictionnaire amoureux de la Suisse qui cultive de temps en temps l'amour vache et de temps en temps l'amour éperdu. Et il vient de paraître aux éditions Plomb. Il y a des rubriques dont on n'a pas eu le temps de parler mais qui sont extrêmement savoureuses. Il y a celle par exemple, c'est inattendu mais elle est excellente, sur la Migros, cette institution suisse incroyable, cette sorte de coopérative qui détient un immense pouvoir culturel. Aujourd'hui, en tout cas, c'est un livre qui est un vrai régal.
Il y a aussi une rubrique sur Paris, parce que pour les Genevois,
Paris vu de là-bas.
Vu de là-bas.
Voilà, on termine avec ces musiques traditionnelles de Romandie. Pour terminer, Tout un monde, le magazine des cultures, à la prise de son Jean-Louis Deloncle, à la réalisation Vanessa Nadjar. Tout un monde, chaque samedi, avec la collaboration de Claude Armand de Castio, vous est proposé par Marie-Hélène Freisset. Consultez notre page Tout un monde sur le site franceculture.fr où on trouvera aussi la liste considérable, on n'a pas eu le temps d'en parler, mais Metin Arditi, de vos romans. Et c'est sur France Culture, bien sûr, que vous avez rendez-vous avec Vincent Charpentier. Bonsoir Vincent.